Le dialogue islamo-chrétien est au programme ce matin avec un de ses précurseurs, Louis Massignon.
Le vœu et le destin, c'est le documentaire retraçant la vie de Louis Massignon et son désir de comprendre l'islam, devenant ainsi un des précurseurs du dialogue islamo-chrétien. Et pour découvrir cette figure du siècle dernier, nous sommes avec le réalisateur de ce documentaire, Grégor Tomczak. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Je précise que vous serez ce soir à la soirée organisée à l'occasion du 60e anniversaire de Nostra Aetate. Cette déclaration du Concile Vatican II porte sur les religions non chrétiennes et constitue un tournant dans le dialogue interreligieux. Alors, Grégor Tomczak, vous êtes cinéaste franco-polonais. Comment vous êtes-vous intéressé à la figure de ce Louis Massignon ?
Je me suis intéressé en vivant en France. Je suis en France depuis une trentaine d'années pour des raisons qui sont personnelles, parce que mon épouse est française. Et il se trouve que avant de m'occuper du cinéma, de faire des études de cinéma, j'ai fait des études de langue française, des lettres françaises, la philologie romane à l'université de Łódź, de Lodz, où j'ai appris et approfondi mon français. Je me déplaçais librement et aisément en France, qui était un pays que j'aimais beaucoup, dont je maîtrisais la langue et je connaissais un peu la culture. Donc je me suis trouvé en France et depuis 30 ans j'y suis. Et c'est en vivant ici que j'ai découvert une dimension qui était beaucoup moins connue pour moi en Pologne pour différentes raisons. La Pologne et la France sont deux pays qui ont quelques points communs, mais beaucoup de différences. Une des différences, c'est leur rapport aux religions non chrétiennes. La Pologne n'a jamais été un pays colonisateur et pour cette raison ne s'est pas tellement intéressé aux autres religions, par exemple aux religions du Maghreb ou du Moyen-Orient. Même si je dois préciser que l'un des plus grands traducteurs du Coran est un Polonais, Kazimierski, Albert Kazimierski, qui est une référence encore aujourd'hui, hein, si on veut trouver un exemplaire du Coran avec des commentaires qui tiennent la route, eh bien, on prend la traduction de Kazimierski, qui est toujours rééditée.
Et alors, on va avancer sur Louis Massignon. Comment vous l'avez découvert,
oui,
ce personnage?
Alors, Kazimierski n'a pas pu connaître Massignon, parce qu'ils ont vécu à deux époques complètement différentes. Et moi, je l'ai découvert en m'intéressant à la présence des musulmans en France, au dialogue interreligieux en général. J'ai trouvé que parmi différentes religions avec lesquelles le catholicisme a ouvert les voies du dialogue en 1965, au moment de Nostra Aetate, c'est peut-être la religion musulmane qui constitue cet espace et la plus passionnante, hein, d'un dialogue qui est difficile et qui est éprouvant, mais qui constitue un défi. Donc je me suis intéressé par cette voie-là un peu naturelle en vivant en France. Ça faisait partie de l'ère du temps et tout simplement des ambiances culturelles, politiques et autres. Mais il y a eu aussi un déclenchement, une cause beaucoup plus concrète de mon intérêt pour Massignon, c'est que j'ai réalisé quelques années auparavant un documentaire de 52 minutes sur l'un des moines des Tibérines, Christophe Le Breton, qui a vécu à Blois, ville où j'habite, et qui a fait partie à Tibérines d'un groupe de rencontres islamo-chrétiennes qui a été constitué par Claude Rau et Christian de Chergé. Et donc il y a eu trois ou quatre moines, qui ont fait partie de ce groupe-là. Ça consistait à se rencontrer des fois par an, de mener des discussions parfois théologiques, des témoignages. Voilà. Et donc en m'intéressant à Christophe Le Breton, j'ai découvert cet espace, cette thématique vraiment passionnante, et que le premier film ne m'a pas permis d'approfondir. Donc quand ma productrice
a fallait faire un deuxième film.
Voilà, c'est ça. J'avais envie de toute façon de prolonger cette expérience. Et quand ma productrice m'a demandé qu'est-ce qu'on fait maintenant, alors je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien faire un film sur le dialogue islamo-chrétien. Alors elle m'a dit, oh, tu ne sais pas où tu mets les pieds. Vraiment, c'est trop difficile. Mais finalement, elle a adhéré à mon projet. Et en faisant le repérage de ce sujet, j'ai découvert une figure incontournable qui est Louis Massignon.
Alors, on va découvrir Louis Massignon, mais on me dit dans l'oreillette qu'effectivement, demain, vous parlez des moines de Tivérine. C'est l'anniversaire de leur assassinat. C'était le 21 mai 1996. Louis Massignon, c'est un grand intellectuel. Il est le fils d'une mère chrétienne et d'un père athée. Donc, il est né en 1883, il est mort en 1962. Il perd d'abord la foi dans sa jeunesse et puis il la retrouve plus tard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Grégoire Tomczak, ces deux revirements?
C'est un cas à part, très original, mais en même temps, cette conversion fait partie d'une série de conversions de la Belle Époque. Hein.
Ah oui.
Il y a eu beaucoup, beaucoup d'intellectuels, artistes, comme les Maritains, comme Claudel, Huysmans Savant, Léon Blois, etc., qui étaient les convertis de la Belle Époque. Et donc, c'est dans cette dynamique-là, quelque part, que lui, Massignon, aussi a vécu sa conversion. Après, il a fait partie de ce groupe. Il est devenu un ami très, très proche, par exemple, de Paul Claudel.
Oui, c'est ça. Mais il a quand même dit qu'il avait vécu une conversion. Il a rencontré quelqu'un, il l'appelle la visitation de l'étranger.
Oui, alors c'est le nom d'usage, parce qu'il a fallu donner un nom à son expérience mystique. Mais en fait, c'est une expérience qui échappe un peu aux formules toutes prêtes. Ça s'est passé dans un contexte, je dirais presque romanesque dans le sens positif du terme, lorsque le jeune Massignon, il avait à peine 25 ans, 24 ans, s'est trouvé en Mésopotamie. Il a eu une mission archéologique dans ce pays-là. Et à vrai dire, il ne s'intéressait pas à l'archéologie, mais plutôt à un mystique musulman, Al-Hallaj, qui avait vécu à Bagdad. Mais bon, il était aussi, pour cette occasion, archéologue, et dans un contexte politique très, très tendu, où il y a eu ce qu'on appelle le phénomène des jeunes turcs, un mouvement révolutionnaire où il y a une présence très forte des Allemands sur ce territoire, des Anglais également, mais surtout des Allemands. Et donc, il y a eu aussi, comme dans les milieux d'archéologie, est un phénomène courant, beaucoup de jalousie. Ce sont les archéologues allemands qui l'ont dénoncé faussement, et que Massignon serait
un espion
au service de l'État français. Alors, ce qui s'est fait que, ce que le film d'ailleurs explique un peu plus en détail, il s'est trouvé capturé et emprisonné dans un bateau qui remontait le Tigre depuis le désert jusqu'à Bagdad. Et enfermé dans la cale du bateau, il a voulu se suicider parce qu'il était complètement désespéré, pas seulement de la situation présente, mais aussi de la rélecture de sa vie des années qui ont précédé cet événement.
Oui, parce que c'était un homme qui était très tourmenté quand même,
tiraillé, qui était très sensible, qui cherchait les réponses aux questions très profondément et sans avoir de réponses. Et donc, il a vécu dans ce contexte qu'il a appelé plus tard la visitation de l'étranger, une nuit mystique où il a fait tout simplement la rencontre avec Dieu, on peut dire simplement comme ça, qui était le déclenchement de sa conversion, qu'il a décrite ensuite dans un texte intitulé Visitation de l'étranger, qui est un chef-d'œuvre, à mon avis, vraiment poétique.
Et ce Louis Massignon s'est beaucoup interrogé sur sa vocation. Il a hésité à être ermite. Il a finalement été prêtre melkite, mais il s'est marié. Et il a, et vous le montrez très bien dans votre documentaire, il a rencontré Charles de Foucault.
Oui, c'est cela. Il est difficile de résumer en une phrase.
Oui.
Et lorsque on dit quelque chose, on a envie d'ajouter quelque chose d'autre au sujet de Massignon. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui, au moment de sa conversion, a découvert une vocation de sacerdoce. Il aurait voulu devenir prêtre, mais il a hésité entre différentes options. Et une des options, c'était aller au désert avec Charles de Foucault. Charles de Foucault, qu'il a connu personnellement, qui est devenu un ami très intime.
Oui, qu'il a même invité à une nuit d'adoration à Montmartre.
C'est ça, de son passage à Paris. Et donc, Massignon a beaucoup, beaucoup hésité, mais une des raisons, c'est que pourquoi il ne l'a pas suivi finalement, parce que C'était le désert berbère pour de Foucault, alors que ce qui intéressait Massillon, c'était le désert arabe. Ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, il était intellectuel. Il cherchait absolument à approfondir, avec les outils de la science, la connaissance de l'islam, de la culture arabe. Il était très attaché à l'Égypte, à Lazare, au Caire, etc. Donc, il est resté dans le monde et il s'est marié. Mais une fois marié, effectivement, des années plus tard, finalement, il a trouvé une petite voie, très modeste, mais qui lui a quand même permis de devenir prêtre melkite, c'est-à-dire ce courant de la religion catholique qui permet le mariage de personnes mariées.
Alors, ce Louis Massignon, il était professeur au Collège de France, il était orientaliste et puis historien. Comment s'est-il intéressé à l'islam?
Il s'est rencontré, ça s'est passé par étapes. Il s'est intéressé la première fois lors de son voyage de jeunesse, quand il a écrit le mémoire de son travail de recherche sur Léon l'Africain. Alors, c'est encore un autre tiroir dans le meuble biographique de Massignon.
Très riche et très vaste, oui.
Et quand il était jeune, il a décidé d'aller sur les pas de Léon l'Africain, qui était un musulman né à Grenade, et qui, par concours de circonstances, de vie, il s'est trouvé à Rome. Il était parrainé par le pape. Et à la demande du pape, il a écrit la reconnaissance du Maroc. Et comme le temps passait beaucoup plus lentement, les changements étaient beaucoup moins lents. À l'époque, pendant des siècles, le Maroc n'a pas tellement changé entre l'époque de la Renaissance et le début du XXe siècle. Donc, Massillon a voulu vérifier sur le terrain comment c'est au Maroc. Il est parti là-bas sans savoir que Charles de Foucault, 20 ans auparavant, il a parcouru le même trajet.
Ça,
c'est une circonstance assez curieuse.
Oui, oui.
Et une fois sur place, où il a constitué une caravane pour pénétrer le territoire marocain, qui était dangereux d'ailleurs à l'époque.
Oui, Charles de Foucault le raconte aussi.
Charles Foucault aussi, c'est ça. Oui, on risquait sa vie. Il a fait l'usage des armes, d'ailleurs, Massignon. C'était un cavalier vraiment très, très habile. Il maîtrisait aussi les armes. Il avait déjà fait son service militaire à l'époque. Et donc, il a appris que son guide traducteur le trompait à plusieurs reprises. Et donc, il s'est dit, il faut absolument que j'apprenne l'arabe parce que sinon, sinon je ne pourrais pas fonctionner dans ces pays qui me passionnent énormément, dans ces pays, dans ces territoires du monde.
Et c'est comme ça qu'il a découvert, finalement, en étudiant la langue, c'est comme ça qu'il a découvert l'islam et qu'il s'est rapproché
absolument, parce que, des musulmans. Parce que la religion musulmane est intimement liée à la langue arabe. On ne peut pas séparer les deux.
Oui. Malheureusement, il est déjà quasiment temps de nous quitter. Je précise donc que ce documentaire, Le vœu et le destin, que vous avez réalisé, Grégoire Tomczak, sera projeté ce soir lors de la soirée de débat proposée par le service Église en dialogue du diocèse de Toulouse. Mais pour les auditeurs qui habitent loin et qui pourraient pas se rendre à cette soirée, il est aussi visible sur la chaîne YouTube. Cette soirée, elle est à 20h30 à la salle Coligny du village Philothée à Toulouse. Elle sera poursuivie par par un débat avec Mgr Jean-Pierre Battu, l'évêque auxiliaire de Toulouse, et puis d'autres invités. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Je crois que j'ai tout dit. Donc, c'est ce soir, cette soirée, à la salle Coligny, à l'espace Philothée, à 20h30, pour votre documentaire, Grégoire Tomczak, Le vœu et le destin sur Louis Massignon. Merci beaucoup.
Merci Isabelle. Au revoir.